Couture dans le Mid
avec Pierre Couture et Frank le dédomiseur.
Radio X.
Ouais, ben on parle beaucoup là des contre-tarifs canadiens là, qui ont été annoncés hier par Mark Carney. Avec le grand sourire, hein, moi, c'est ça qui m'a frappé là, en regardant la conférence de presse hier. T'avais François-Philippe Champagne, t'avais Mélanie Joly. C'est comme si les autres, ils trippaient à annoncer des contre-tarifs. Alors, je sais pas si les gens comprennent ce qui se passe. Là,
mais ça, là, c'est des gens qui connaissent ça, l'économie.
C'est des taxes. Joly, c'est des taxes, Frank. On va taxer notre monde, on riait. On trouvait ça drôle. Voyons, c'est quoi, là?
Mais c'est ce que je te disais tantôt. Les Américains, ils sont caves de mettre des tarifs, mais nous autres, qu'on est brillants de mettre des contre-tarifs.
On fait la même affaire. La même affaire. Est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler avec l'économiste, l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giga. Gabriel, tu es salué.
Bonjour.
Bonne ou mauvaise des contre-tarifs?
Évidemment que c'est mauvais, vous l'avez très bien dit. Quand on explique depuis un an et demi que le gouvernement américain se tire dans le pied en mettant des tarifs douaniers, que ça augmente les produits, le prix des produits pour les Américains, pour les consommateurs, puis qu'on fait la même chose, ben, la même grille analytique doit s'appliquer. Autrement dit, quand on met des contre-tarifs, ben, c'est évident que collectivement, on va payer plus cher. Ce matin, là, je tombais de ma chaise. Je ouvrais le Journal de Montréal, t'as un article qui explique que c'est super difficile le coût de la vie. Les Québécois, les Canadiens en arrachent, ouais. Ça n'a pas d'allure. Puis après ça, t'as un autre article, là. L'article d'après, tu vois, c'est écrit « Oui, nous, on va supporter Mark Carney avec ses contre-tarifs. » Un instant, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? T'en arraches, puis tu veux payer plus cher ton épicerie, tu veux payer plus cher tes électroménagers. Ça fonctionne pas, là. À un moment donné, quand tu regardes ça comme du monde, c'est pas possible. Parce que là, aujourd'hui, t'as de l'acier qui part de Rio Tinto, qui s'en va aux États-Unis, tu vas avoir le 50% appliqué. Après ça, cet acier-là va servir notamment à une sécheuse, les Whirlpool. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est la grande marque de sécheuse laveuse qui est utilisée. Mais quand ça va être envoyé à Corbeil, Tanguy, Rona ou Home Depot, on va la racheter. Tu vas avoir le 50% appliqué aux États-Unis puis le contre-tarif de 25%. À un moment donné, on va le voir très clairement sur notre facture. Là.
Et ça, c'est inflationniste. Là. Tu sais, on regarde un peu les analystes. Ce matin, les économistes des grandes banques sortaient les chiffres puis ils disaient, écoutez, si on se fait ce qu'il y a eu là, il y a un an et demi, là, en 2025, il y avait eu des tarifs, des contre-tarifs, bien, l'inflation va monter. Et par la bande, c'est le consommateur qui va payer tout ça.
Ben, c'est évident que l'inflation risque d'augmenter. On va le voir là rapidement. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas encore mis en vigueur. Ça va être le 8 septembre, mais dans quelques mois, on va le voir. C'est quoi l'impact? En fait, nous, on va le voir bien avant en tant que consommateur, mais les statistiques officielles qui vont découler de la hausse des prix vont nous montrer très clairement que ça va augmenter. On l'a vu avec le café l'année dernière, ça avait beaucoup augmenté. Et c'était notamment lié en partie avec les contre-tarifs canadiens. Alors, on le sait, c'est pas juste théorique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement théorique. C'est pratique. C'est la facture à l'épicerie. C'est la facture à la quincaillerie. On va payer plus cher collectivement. Alors, la stratégie politique, je peux comprendre qu'elle soit payante, mais quand on regarde l'économie derrière ces mesures-là, c'est franchement pas payant. Puis ça nous prend là une dose de lucidité collective pour comprendre qu'on se tire mais solidement dans le pied, comme le président américain fait avec les États-Unis.
Mais là, on joue, Gab, sur l'illettrisme économique de beaucoup de gens là, qui s'expriment publiquement. Là. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens justement qui nous disent « Ah, mais on va faire ça, on va le faire mal. » Mais vous allez leur faire mal de quoi exactement? On peut-tu le savoir?
C'est compliqué parce qu'en plus, on a une asymétrie très claire en matière de dépendance envers l'autre économie. Autrement dit, le Canada va exporter à peu près 70 % de ses biens en valeur aux États-Unis. Tandis que c'est même pas 20 % pour les États-Unis au Canada. Alors, effectivement, on est un gros partenaire commercial. Mais c'est David contre le Goliath, là. Donc, on gagnera pas cette guerre-là. On va simplement se tuer. Puis, il y a des alternatives potentielles qui sont beaucoup plus intéressantes pour le Canada. On est bien mieux de se concentrer sur nous. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des capitaux? Ouvrir les barrières au commerce interprovincial. Il y a eu beaucoup d'avancées l'année dernière.
Ben, c'est les taxes et puis les impôts des entreprises, là.
Première affaire. Comment ça se fait là, qu'aujourd'hui, au lieu de dire on baisse massivement les taxes sur les impôts des entreprises, on est à 11,5% au Québec, on pourrait solidement couper ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va refaire comme l'année dernière. L'année dernière, on avait créé un programme, essentiellement un plat de bonbons, c'était frontière. Là, ça va être force. Mais tout le temps, même affaire, là. Tu vas avoir un gros plat de bonbons. Ceux qui sont un petit peu touchés vont pouvoir aller chercher des bonbons. Le problème, c'est que ça crée des entreprises zombies. C'est-à-dire que pendant 24 mois, ça fait qu'ils ne fassent pas une scène. Mais que même à ça, c'est pas grave. Toi, en tant que consommateur, ou plutôt en tant que contribuable, tu leur envoies de l'argent à travers tes impôts. Ils font pas une scène, ils vont fermer un moment donné, mais ils n'ont pas besoin tout de suite parce qu'ils ont des prêts probablement à taux zéro ou très, très bas, 24 mois avant de moratoire avant de repayer. Bref, collectivement, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit, là.
On a parlé avec François Vincent ce matin de la FCI, puis il nous a dit que quand il y a eu les tarifs l'année passée, c'est 1% seulement des PME de ses membres qui ont eu accès aux prêts et aux aides financières. Donc, ça veut dire que 99% des autres PME, ils ont dit, ben écoute, c'est tellement compliqué, ça répond pas nécessairement à mes critères à moi. Donc, on a ciblé, quoi, c'est un show de boucan qu'on fait?
Bien, ça, c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que ce que ça veut dire, c'est que non seulement le gouvernement du Québec est incompétent pour avoir la bonne mesure, mais même quand il prend la mauvaise mesure, il est incompétent pour la déployer. Fait que ça, juste ça, là, je pense que ça brosse le portrait de l'incompétence gouvernementale. Puis ça amène à un autre point. Au lieu d'y aller à la carte, au lieu de se dire ce programme-là pour cette situation-là, réduisons les impôts, créons un environnement fiscal intéressant pour les entreprises, puis arrêtez de jouer là, à lui oui, lui non, lui pourra pas parce qu'il comprend pas c'est quoi ma mesure. Probablement qu'il la comprend pas non plus eux-mêmes au gouvernement, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça serait beaucoup plus simple de juste baisser les impôts pour être plus attractif.
Mais là, on a de la misère à savoir vraiment ce qui se passe parce que là, du côté canadien, on nous dit des choses. On nous dit, ben là, il attaquait, les États-Unis voulaient attaquer le français, voulaient des concessions sur toutes sortes d'affaires. Nous autres, on voulait pas aller là. Puis du côté américain, quand on lit les médias, on dit, attends un peu, là, le Canada, à la dernière minute, ils ont changé d'idée sur plein d'affaires, notamment un truc qu'on n'a pas parlé vraiment au Canada, mais qui était dans le New York Times, c'est l'histoire du pipeline. Là. Donc, Trump, tu sais, avait fait son message, avait dit, peut-être que le pipeline Keystone XL va revivre de ses cendres. Puis dans le New York Times, hier, on nous disait qu'à la dernière minute, je ne sais pas trop pourquoi, le Canada dit non, finalement, on n'est plus intéressé. Là, moi, j'ai l'impression qu'on négocie de part et d'autre de mauvaise foi là-dedans.
J'ai vraiment l'impression que des deux côtés, là, on ne peut pas trop faire confiance. Là. On a l'impression que c'est constamment de la contradiction d'un bord puis de l'autre. Donc, je pense qu'une prudence par rapport au gouvernement, que ce soit américain, canadien, ce qui avance, est nécessaire pour tout le monde. Maintenant, une chose est sûre, aujourd'hui, on va en perdre des emplois dans les prochains mois là, au Québec parce qu'on n'a pas d'entente, parce que les tarifs américains vont nous faire mal aussi en tant qu'entreprise. Là. Mm-hmm. On dit pour... c'est parce qu'il y a une pédagogie à faire sur le fait que des tarifs douaniers, c'est une taxe pour sa population, mais ça vient également décourager, ou plutôt, ça vient également réduire la compétitivité de nos entreprises.
Ben oui.
Parce que si un
ben
produit oui. est vendu 100$ par une entreprise du Québec, est vendu 110$ par une entreprise américaine, ben ça va être l'entreprise québécoise qui va être prise. Mais si tu mets un 50%, mais le produit est à 150$, ben oui, les Américains vont perdre, mais entreprises canadiennes et québécoises aussi. Donc, une fois que ça c'est dit, collectivement, on gagne beaucoup plus à avoir aucun tarif. D'après ça, tu peux me dire, oui, mais Gabriel, dans le monde aujourd'hui, aucun tarif, c'était pas sur la table, puis t'aurais probablement raison. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est mieux d'avoir des tarifs plus bas que d'avoir un peu la dynamique actuelle où on est. Donc, j'ai bon espoir qu'on retourne rapidement à la table de négociation parce que c'est pas durable, cela, des comptes tarifs, là. C'est une vue de l'esprit, là. Rapidement, il va falloir qu'on se rassoie puis qu'on renégocie parce que ce qu'on veut, c'est un accord qui est le mieux possible parce que ici, l'ennemi peut être, en fait, le meilleur, le mieux peut être l'ennemi du bien, là.
Ouais, ouais, ben oui.
Il faut faire attention, faut peser les choses parce que, effectivement, c'est imprévisible du côté américain, mais concrètement, si on attend puis on se croise les bras, là, c'est des jobs un peu partout au Québec là, qui vont être abolis. Là.
Plusieurs observateurs disent que l'histoire du libre-échange, puis il y avait des États libre-échangistes. Ce qu'on regarde, puis eux, c'est la lecture qu'ils font, très critique de ce que Carney et le gouvernement du Canada ont fait comme lecture, mais c'est qu'on s'en va dans un environnement où il va y avoir des tarifs de toute façon, que ce soit des républicains ou encore des démocrates dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Est-ce qu'on fait une mauvaise lecture de ce que peut être... est-ce qu'on vit dans le passé? Est-ce que le Canada vit dans le passé?
Mais j'ai envie de dire que le Canada s'est vit dans le passé pour s'enrichir, c'est-à-dire s'il dit eux vont vouloir mettre des tarifs douaniers, nous on rentre pas dans cette game-là. Nous ce qu'on va faire à place c'est d'abolir nos tarifs, parce qu'il faut juste savoir que le Canada, quand on lit la fiche à l'Organisation mondiale du commerce du pays, ouais. On a des tarifs douaniers sur la manufacture, on a des tarifs douaniers sur l'agriculture, puis pas juste en lié à la gestion de l'offre, même si c'est une partie importante des tarifs douaniers canadiens. Ce que le Canada doit faire, c'est dire ben nous autres on va doubler la mise sur l'ouverture des frontières ou plutôt l'abolition des tarifs douaniers dans le commerce international. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant de cette manière-là. Puis de se dire, mais peut-être qu'on est avec un partenaire commercial plus difficile, notamment les États-Unis, parce que tu as raison, Pierre, de dire qu'on n'a aucune certitude, peu importe qui sera le prochain président dans quelques années, qu'on va voir une abolition des tarifs. Je pense que collectivement, on l'espère, mais si on veut rester lucide politiquement, ça peut être une réalité. Mais ça n'oblige en rien le Canada à adopter cette attitude-là, même que j'encourage les décideurs politiques canadiens et les décideurs politiques québécois à faire pression sur le fédéral pour dire non, bien au contraire. Le problème ici, Pierre, ce qu'on voit, c'est quand même des décideurs politiques québécois continuer à faire la petite pièce de théâtre extrêmement lassante du surprotectionnisme québécois, notamment à travers la gestion de l'offre. On dit, bon, on est très, très loin de la coupe aux lèvres en matière de grande ouverture et d'abolition des barrières qu'ils soient tarifaires ou non.
Ben oui, t'as du 100%. T'as quoi, 93, 95% là, du lait qui... je veux dire, c'est, il y a 3-4% du lait américain qui rentre à peu près. Là, des fromages, c'est à peu près ça aussi. Là, c'est du plus 95% là, pour la gestion de l'offre là, qui est d'ici. Là. On est barré là.
Ben oui, c'est complètement lunaire, cette réalité-là, parce qu'on l'a vu ailleurs quand on a abolé la gestion de l'offre, notamment en Nouvelle-Zélande. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certes, il y a eu un moment de transition où les fermes les moins productives peuvent fermer, mais les plus productives, comme ils n'ont plus le quota qui vient de les étouffer, sont aptes à exporter davantage. Puis quand j'avais fait un texte d'opinion il y a 2-3 ans sur ça, je me suis vraiment replongé dans le sujet de la Nouvelle-Zélande. Puis ce que j'ai constaté, c'est qu'avant, tu avais une part vraiment minime, un peu comme au Canada, de la production qui est exportée, puis aujourd'hui, c'est 90%. Fait que ce que je veux dire, c'est quand on va abolir la gestion de l'offre si on veut vraiment réduire le prix dans le panier d'épicerie des Canadiens et des Québécois, puis également d'abolir les barrières tarifaires. Ce que ça viendrait faire concrètement, ça ferait en sorte que nos meilleures fermes puissent exporter davantage, devenir beaucoup plus productives, puis c'est l'économie québécoise puis les consommateurs qui gagneraient. Donc, ce réflexe mental-là de dire faut arrêter de réduire la concurrence, parce que quand on réduit l'incitatif à l'amélioration de la qualité de vie, parce que ça nous permet d'augmenter notre productivité, la concurrence va être nécessaire, mais on est encore très loin de ça au Québec, également au fédéral.
Oui, c'est ça. Gabriel Giguère, toujours un plaisir, économiste de l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup. De tes observations, de tes lumières à la prochaine. Voilà, Gabriel Giguère. Ben, aïe, penses-tu qu'on va aller là, l'abolition de la gestion de l'offre? On n'est pas là pantoute, là. Je veux dire, ils ont 95% du marché, eux autres seuls.
Tu sais, les Canadiens, c'est plein de pierres, mais les Canadiens, ils veulent se bomber le chest, ils veulent se battre en ce moment. Ils veulent pas que ça se règle.
Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est des Canadiens québécois, là. Tu sais, je veux dire, c'est du monde qui votait pour le Bloc, puis qui vont peut-être voter pour le PQ. Mais ils vont voter Carney l'autre bord. Là, c'est complètement
mêlé. À chaque fois qu'on parle de ça, moi, on dirait que ça me grille le cerveau.
On sait plus ce qu'on est rendu. Là. Mais on est des bons patriotes. Hein,
c'est ça qu'il
voilà.
faut.
Après la pause, on parle de la bourse, l'économie, l'inflation, tout ça. Aux États-Unis, c'est pas les bourses, c'est pas évident. On revient.
Couture.
Restez là.
Dans le mid.
On revient dans un instant.
Radio X.